Mais le vif du sujet, le vraiment vif du sujet, si j'ose dire, c'est la première des tragédies de Shakespeare, parce qu'on va essayer de vous les présenter un peu, ou du moins de présenter celles que nous avons retenues, parce qu'il y en a d'autres. On va essayer de vous les présenter à peu près par ordre chronologique. Et par ordre chronologique, la première, c'est Roméo et Juliette. C'est tellement la première tragédie de Shakespeare que certains critiques romantiques qui ont été séduits par la fraîcheur de l'intrigue ont même supposé que c'était la première de ces pièces tout court. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, on en est à peu près certain, et ça n'était sans doute pas tout à fait la première de ces tragédies. Si l'on compte, par exemple, Titus Andronicus comme tragédie, Roméo et Juliette a été écrit ensuite, à peu près 2 ans plus tard. Si on compte certains des drames historiques comme tragédie, par exemple Richard III, c'est pareil, à 1 ou 2 ans près, Roméo et Juliette est un peu postérieur. En fait, la pièce, comme vous allez le voir, est à peu près contemporaine d'une comédie. Je vous laisse le soin de deviner laquelle, après lecture de l'extrait par Martin.
Et par toi-même aussi, dans le rôle de Roméo.
Déjà ?
Mais oui,
déjà. Ah, mais tu as raison. En effet, je commence. J'ai fait un rêve cette nuit.
Et moi aussi.
Ah, quel était le vôtre ?
Que les rêveurs mentent souvent.
Endormis dans leur lit, ils rêvent parfois de choses vraies.
Oh, je vois, la reine Mab vous a rendu visite. Parmi les fées, c'est la coucheuse. Et elle vient, pas plus grosse qu'une pierre d'agate à l'index d'un échevin, traînée par un attelage de petits atomes, se poser sur le nez des hommes quand ils dorment. Son carrosse est une noisette vide, fabriquée par l'écureuil menuisier ou par un vieux ver rongeur, de temps immémorial les carrossiers des fées. Les rayons de ses roues sont faits de longues pattes de tarentule, la capote est une aile de sauterelle, les rênes, une fine toile d'araignée, le collier d'humides rayons de lune, son fouet, un os de grillon, la lanière, un fil de la Vierge. Son cocher, un petit moucheron vêtu de gris, pas plus gros que la moitié d'un petit ver rond que l'on prend dans les doigts paresseux d'une servante. Et dans cet équipage, elle galope nuit après nuit, dans le cerveau des amoureux, et alors ils rêvent d'amour. Sur les genoux des courtisans qui rêvent aussitôt de courbettes, sur les doigts des hommes de loi qui rêvent aussitôt d'honoraires, sur les lèvres des dames qui rêvent aussitôt de baisers, ces lèvres que souvent Mab furieuse couvre de cloques, car leur souffle est empesté de pastilles parfumées. Parfois, elle galope sur le nez d'un huissier, et alors il rêve qu'il flaire un bon procès. Et parfois, elle vient, avec la queue d'un cochon de la dîme, chatouiller le nez d'un curé endormi. Alors il rêve d'un nouveau bénéfice. Parfois, elle roule sur le cou d'un soldat, et alors il rêve d'ennemis égorgés, de brèches, d'embuscades, de lames de Tolède, de rasades profondes de 5 brasses, et aussitôt le tambour bat à son oreille, il tressaille, se réveille, et ainsi effrayé, jure une prière ou deux, et se rendort. C'est toujours cette Mab qui tresse la crinière des chevaux la nuit, et dans leurs poils gluants et crasseux durcit ses nœuds magiques, qui, débrouillés, présagent de grands malheurs. C'est elle, la sorcière, quand les vierges sont allongées sur le dos, qui les comprime, et leur apprend à supporter leur premier fardeau et à devenir des femmes de bon rapport. C'est encore elle.
Oh, tais-toi, Mercutio, tu parles pour ne rien dire.
Vrai, je parle de rêves, qui sont les enfants d'un cerveau oisif, engendrés par la seule et vaine fantaisie qui est d'une substance aussi fine que l'air et plus inconstante que le vent, qui courtise aujourd'hui le sein glacé du Nord, puis s'étant irrité, s'en va souffler loin de là, tournant son flanc vers le sud humide de rosée.
Dans ce texte, il y a, ce qui me frappe, des lieux communs, des topos, des topoi, qui sont souvent développés comme le rêve, le songe est un mensonge, avec cette rime assez fréquente dans la poésie française, en tout cas de songe et de mensonge. Alors là, on le retrouve dans plusieurs endroits. Quand Mercutio dit « les rêveurs mentent souvent », ou quand Roméo dit « tu parles de rien », c'est-à-dire le rêve est une pure illusion qui n'a pas de consistance. Ou quand Mercutio répond « vrai, je parle de rêves qui sont les enfants d'un cerveau oisif ». Alors, il y a ce premier motif, encore qu'ici, c'est un cerveau oisif qui engendre des fantaisies. Il y a aussi un autre topos qu'on connaît bien à cette époque-là et qui est développé par Shakespeare. On en verra quelques exemples dans les extraits qui suivent. Celui selon lequel la vie est un songe, celui selon lequel la vie est un théâtre. Mais ici, finalement, ces différents lieux communs, ils sont reconfigurés, d'une certaine manière, avec l'idée que c'est le rêve qui est un théâtre. Puisqu'on a là, avec cette reine Mab, bon, la reine Mab, c'est un personnage du folklore anglais, qui est la fée des songes, ou la reine des fées, ou la coucheuse des fées, elle a plusieurs fonctions. Et là, finalement, elle est représentée comme un grand dramaturge. Elle invente des personnages, elle invente des actions, elle invente des désirs, elle invente des décors, elle invente des objets. Et je trouve que ce qui est tout à fait charmant, outre, toutes ces miniatures absolument délicieuses, puisqu'il s'agit de représenter finalement un petit théâtre qui est à l'intérieur du cerveau. Et les rêves sont comme une petite scène, une série de petites scènes qui se passent à l'intérieur du cerveau. Et donc, pour développer toute cette allégorie générale, avec différents personnages, avec différents objets, avec différentes actions, eh bien, tout est en miniature. C'est ça qui est si, si délicieux. Et du coup, Shakespeare reprend un motif qui était un motif développé aussi par les philosophes de son temps qui cherchaient à se figurer la mémoire ou toutes les facultés de l'âme, l'imagination, le rêve aussi, tout ce qui se passe, tout ce qui se figure, tout ce qui se représente à l'intérieur du cerveau. Alors on avait des images pour le représenter. Une de ces images, c'était l'homoncule, le tout petit homme. Et ça, c'est une fantasmagorie aussi des alchimistes, hein, l'idée de pouvoir reproduire un tout petit homme. On le trouve encore dans les films de science-fiction aujourd'hui, hein, ça fait partie des prouesses de la science, des prouesses fantasmées de la science, de pouvoir reproduire l'homme en tout petit qui pourrait ensuite aller se loger je ne sais où. L'intelligence artificielle, du reste, c'est bien ça aussi, hein, c'est une intelligence miniaturisée. Et ici, hein, vous l'avez remarqué, ce sont les humains qui deviennent donc des animaux tout petits, des petits insectes, et les objets qui deviennent des toutes petites parties de végétaux, le carrosse, une coquille de noix, ou des sécrétions animales, comme cette aile de sauterelle qui fait la capote du chariot de la reine Mab, ou ces fines toiles d'araignée qui font les rênes du chariot, ou bien des phénomènes météorologiques, comme le rayon de lune qui fait le collier. Alors c'est ça qui m'a paru particulièrement beau, hein, dans cette tirade, c'est d'inverser un petit peu des motifs déjà bien connus pour faire du rêve un petit théâtre en miniature. Et aussi ce que fait Shakespeare du même coup, c'est que à cette science du rêve, selon laquelle ce qui se passe en rêve, c'est la satisfaction d'un désir, du désir des dormeurs. C'est bien ce que Freud expliquera dans sa théorie du rêve, hein, c'est que le rêve est la satisfaction d'un désir. Eh bien, Shakespeare, c'est comme s'il avait cette science, déjà, cette science psychologique-là, bien des siècles avant Freud, et qu'il la mettait en valeur en la doublant de la satire. Parce qu'évidemment, les rêves dont il est question, hein, les rêves dont il est question, les désirs, ben, ce sont des désirs toujours assez inavouables et qui tournent soit autour du désir physique, de la luxure, hein, à laquelle pensent déjà les vierges. Alors ce thème de la luxure, on va le retrouver appliqué aux femmes dans plusieurs des textes qu'on va lire ce soir. Hein. Et puis sinon, ben, ce sont les thèmes des classiques des vanités, des valeurs du monde qui n'en sont pas, l'enrichissement, avec les huissiers qui rêvent de bons procès, les curés qui rêvent de bénéfices. Autre vanité, eh bien, la gloire, avec les courtisans qui rêvent de courbettes. Et puis, autre vanité, la gloire militaire, hein, celle des soldats qui rêvent de batailles gagnées, de meurtres et de glorioles, finalement.
Et bon, tu as donné plus qu'un indice, hein, Florence, tu as vendu la mèche, la pièce à laquelle on songe immédiatement, quand on connaît un peu son Shakespeare, la pièce cousine de cette première tragédie, c'est évidemment le songe d'une nuit d'été, où vous retrouvez non pas la reine Mab en personne, mais des fées qui lui sont comparables en tout point, à la fois par la miniature, par la composition de leurs accessoires, par leur attitude générale, par leur façon effectivement de satisfaire les désirs du dormeur plus ou moins éveillé qu'est Bottom avec sa tête d'âne, et par la fonction essentielle que revêt l'imagination. On n'a pas le temps pour citer la très belle tirade du duc Thésée au début de l'acte 5, acte 5, scène 1, précisément sur l'imagination, hein, qui est caractéristique des amoureux et des fous, des amoureux et des poètes. Bon, en l'occurrence, ici, la mère Coutiot, dans sa tirade, ne parle pas vraiment des amoureux, il parle du désir de baiser des jeunes filles, et il associe effectivement les différents désirs qu'on satisfait à différents organes. Il y a certains organes qu'il était peut-être... Shakespeare n'avait pas froid aux yeux, il aurait trouvé un moyen de les mentionner. Là, c'est peut-être en ne les mentionnant pas qu'il laisse entendre de quoi il s'agit, et en s'amusant précisément à ne pas les mentionner devant Roméo, le fameux Roméo, qu'il taquine sur ses amours un peu vides. Car il faut situer... qu'est-ce que ce texte-là, après tout, vient faire dans une tragédie, n'est-ce pas? Eh bien, deux répliques plus haut, qu'est-ce qui amène cette tirade de Mercutio, le meilleur ami de Roméo? Le bout en train, l'imaginatif, le bon vivant, celui qui précisément se tient à l'écart de la dispute entre Capulet et Montaigu qui ravage Vérone, un personnage qui représente peut-être la chance que serait l'imagination et la verve poétique pour une ville aussi déchirée que celle-là. Qu'est-ce qui introduit sa tirade? Eh bien, Roméo, Mercutio et d'autres amis s'apprêtent à pénétrer dans une fête organisée par le camp ennemi, hein, masqué. Et comme vous le savez, c'est au cours de cette fête que Roméo va croiser Juliette pour la première fois. Or, Roméo, juste avant d'entrer, confie à Mercutio nos intentions sont bonnes en allant à cette fête masquée, mais elles ne sont guère sages. Elles ne sont pas sages. There's nowhere to go. Et Mercutio demande : et pourquoi ? Roméo réplique : parce que j'ai fait un rêve cette nuit. Voilà. Moi aussi j'ai fait un rêve, dit Mercutio. Bon, quel était le tien ? Eh bien, que les rêveurs mentent ou couchent souvent. Dreamers often lie, avec ce jeu de mots que Shakespeare met à toutes les sauces dans toutes ses pièces, surtout là, et coucher avec ou non, on le retrouvera dans Othello, et mentir. Bon, là-dessus, il va partir sur sa tirade de la Reine Mab. Et on ne reviendra jamais au rêve de Roméo. Jamais on ne saura quel était ce rêve de mauvais augure qui invitait Roméo à ne pas se rendre à cette fête, où pourtant il va rencontrer Juliette. C'est-à-dire que la rêverie fantaisiste sur la Reine Mab, cette espèce d'écran comique et léger, est aussi ce qui empêche Roméo de formuler un pressentiment plus grave. Mais si vous avez bien écouté la lecture, vous avez vu que la Reine Mab a aussi un côté un peu inquiétant parfois, un peu sombre, exactement comme Titania, d'ailleurs, et les fées, dans le songe d'une été, sont des puissances dont parfois il vaut mieux se méfier. Là-dessus, Mercutio, avec sa grâce habituelle, qui a fait que le rôle était le plus populaire, d'ailleurs, de la pièce jusqu'au XVIIIe siècle, c'était à Mercutio qu'on donnait, le premier acteur jouait Mercutio et non pas Roméo, hein. Avec la grâce qui lui est habituelle, Mercutio noie le poisson sinistre qu'on entrevoit chez Roméo et embarque tout le monde à l'intérieur. Et Roméo va pouvoir rencontrer, sur ce fond un peu inquiétant mais coloré de couleurs claires, il va pouvoir rencontrer Juliette pour la première fois. Et comme vous le savez, mais j'aime toujours rappeler ce moment-là, quand il rencontre Juliette pour la première fois, les premières paroles qu'il lui adresse sont des paroles rimées qui forment un quatrain. Et Juliette, dans sa réponse, répond à l'invitation, mais répond aussi au quatrain. Et les paroles de Juliette et de Roméo, qui se succèdent en se répondant, se complètent de façon à former un sonnet amoureux. Un sonnet amoureux. Alors même qu'ils ne savent pas comment ils s'appellent l'un l'autre. Toute la pièce a été inaugurée sous le signe du sonnet, d'ailleurs, du sonnet pétrarchiste, puisque le prologue même de Roméo et Juliette est un sonnet. L'acteur qui vient prononcer le prologue de la pièce pour annoncer la situation de Vérone déchirée entre factions rivales, ce prologue est prononcé sous forme de sonnet. La poésie pétrarchiste, c'est ce qui colore lyriquement toute l'expression amoureuse de Roméo avant sa rencontre avec Juliette. C'est donc une poésie très savante, très raffinée, très formelle, très codée, qui lui sert à exprimer son sentiment amoureux. À l'instant où il rencontre Juliette, cette forme-là atteint sa culmination, mais elle atteint sa culmination en se dissolvant dans un dialogue, dans un véritable échange. Autrement dit, le sonnet pétrarchiste amoureux, qui est toujours un sonnet à distance, où on invoque la dame à distance, ce sonnet, dès qu'il voit Juliette, devient un véritable échange et devient enfin un sonnet réussi, puisque la parole du sonnet et sa demande, à savoir un baiser, va effectivement aboutir sur un baiser. Et dès ce moment-là, le destin est lancé. Les deux amoureux se retrouvent dans leur bulle de poésie propre, qui ne doit plus rien à une tradition. Et là-dessus, on en parlait tout à l'heure, vous avez deux faces de Roméo et Juliette. Vous avez la face diurne, la face publique, la face politique, qui est le monde de la guerre, de la violence et de l'oppression familiale ou sociale. Et puis vous avez à l'écart le monde des amoureux, qui est un monde nocturne. Je me trompe peut-être, mais j'ai vérifié avec Florence, qui connaît bien la pièce, donc je ne me trompe peut-être pas trop. Mais il m'a semblé, on l'a vérifié, que toutes les rencontres entre Roméo et Juliette, et qui dessinent leur destin presque d'un seul trait, toutes leurs rencontres ont lieu de nuit. Il y a une seule chose qui n'a pas lieu au cours de la nuit des amants, une chose qui est de l'ordre de la nécessité rituelle et objective, et c'est leur mariage. C'est leur mariage. Ils se rencontrent dans une fête de nuit. La même nuit, c'est la fameuse scène du balcon. Après la scène du balcon, ils se retrouvent pour être mariés par frère Laurent. Et la nuit suivante, à nous, autre scène de balcon qu'on ne voit pas, mais ils passent la nuit et consomment leur mariage. Là-dessus, ils doivent se quitter et ils ne se retrouveront que dans une autre nuit, à savoir celle du tombeau. Et c'est dans cette nuit-là que je crois que nous allons nous enfoncer maintenant. Mmh. Voilà, parce que nous entrons vraiment dans la tragédie.
Avec Juliette qui s'apprête à entrer...
À boire le poison.
À boire le poison que lui a donné frère Laurent.
Voilà. Elle est dans sa chambre.
Là, Shakespeare se permet, avec son expérience de dramaturge déjà, il a déjà quelques pièces derrière lui, au lieu de créer par le verbe le décor imaginaire de l'espace de la scène, il laisse au personnage le soin de créer par le verbe le décor dans lequel elle s'imagine, enfin le décor qu'elle s'imagine devoir rejoindre plus tard. Parce qu'en effet, la scène a lieu chez elle, dans sa chambre à coucher.
Où elle vient de quitter, enfin sa mère et sa nourrice la laissent pour la nuit. Adieu. Dieu sait quand nous reverrons. Une fragile peur froide frissonne dans mes veines et glace presque la chaleur de la vie. Je vais les rappeler pour qu'elles me réconfortent. Nourrice, que ferait-elle ici? Cette scène lugubre, je dois la jouer seule. Viens, flacon. Et si cette mixture n'agit pas du tout, serais-je alors marié demain matin? Non, non, ceci l'interdira. Toi, reste là. Et si c'est un poison que le frère m'a sournoisement administré pour me voir morte, de peur d'être déshonorée par ce mariage, parce qu'il m'a déjà mariée à Roméo? J'en ai peur, et pourtant il me semble que non, car il s'est toujours révélé un saint homme. Et si, quand je serai déposé dans le tombeau, je m'éveille avant l'heure où Roméo viendra me délivrer? Voilà une chose effroyable. Ne vais-je pas être étouffé dans ce caveau, dont la bouche fétide ne respire jamais d'air salubre, et y mourir asphyxié avant que mon Roméo n'arrive? Ou si je vis, n'est-il pas fort probable que l'horrible impression de mort et de nuit, jointe à la terreur de ce lieu, ce caveau, cet ancien réceptacle, où depuis tant de siècles sont entassées les os de tous mes ancêtres ensevelis, où Tybalt, encore sanglant, fraîchement mis en terre, se putréfie dans son linceul, où, dit-on, à certaines heures de la nuit, les esprits s'assemblent, hélas, hélas, n'est-il pas probable que, m'éveillant trop tôt, au milieu de ces odeurs infectes et de ces cris de mandragore arrachés à la terre, qui, dès qu'ils les entendent, rendent fous les vivants mortels? Oh, si je m'éveille, ne vais-je pas perdre la tête, assaillie par toutes ces peurs hideuses, et jouer comme une folle avec les os de mes ancêtres, et arrachée de son linceul Tybalt mutilé, et dans cette fureur, avec l'os de quelque grand aïeul, comme avec une massue, faire éclater ma cervelle désespérée.
Ce qui est tout à fait remarquable dans cette tirade, vous l'avez senti, c'est la progression qui va de la maîtrise du geste dans lequel elle se trouve, puisqu'elle sait très bien ce qu'elle va faire en avalant ce poison qui doit l'endormir et lui donner l'apparence trompeuse de la mort, afin de la préserver du mariage qui l'attend avec le comte Paris, que ses parents ont prévu pour le lendemain. Donc il s'agit pour elle, vous vous souvenez, d'empêcher ce mariage en prenant l'apparence de la mort grâce à ce poison que lui a donné le frère Laurent, d'aller dans le tombeau où Roméo prévenu viendra la délivrer au bout de quelques heures. Et donc au tout début de la scène, là elle est dans une très grande maîtrise qu'elle exprime en disant qu'elle ne veut pas faire revenir la nourrice. C'est elle qui a congédié la nourrice pour pouvoir faire sa petite tambouille toute seule, tranquille. Et puis petit à petit, par degrés, tout au long de la tirade, on va vers une forme de délire à la fin. Ça commence par une peur, la peur qui glace ses veines. Et là, avec cette idée d'une peur, de la peur seule qui glace les veines, on a une sorte de prolepse, donc d'anticipation de ce qui viendra ensuite, la mort. Et en même temps, on voit bien comment Shakespeare met des jalons, parce que cette idée d'un sommeil déjà semblable à la mort, elle a déjà été exprimée, elle sait quel risque elle prend. Et puis, ensuite, le monologue continue. Rappelons-nous que là, on a, non pas comme tout à l'heure, une tirade, puisque tout à l'heure, c'était Mercutio qui adressait une tirade à Roméo, tandis qu'ici, on est vraiment dans un monologue avec un personnage seul en scène, ce qui est la définition du monologue. Et toujours au théâtre, le monologue pose problème, un problème de vraisemblance, puisque il est rare, ça peut arriver, mais généralement c'est qu'on est dans un état psychique un peu particulier, n'est-ce pas, qu'on parle seul. Donc il faut toujours, évidemment, que le dramaturge, d'une manière ou d'une autre, motive le monologue. Et là, la motivation, on va la voir. Il s'agit d'abord de se rassurer, de parler tout haut pour se rassurer, ce qu'on fait, ce que tout un chacun peut faire. Et puis on voit finalement comment, au lieu de se rassurer, elle s'effraie elle-même, elle s'effraie toute seule. Et elle perd justement cette maîtrise qui est la sienne au moment où elle boit. C'est ça qui est très beau c'est, dans cette scène, c'est ce contraste entre d'un côté la maîtrise de son geste et puis de l'autre l'envolée de l'imagination vers la terreur. Et ça avance vraiment par gradation, puisque d'abord sa peur, c'est la peur de la trahison du père Laurent. Et si il lui avait donné non pas un somnifère puissant, mais un véritable poison qui lui permettrait que ne soit jamais révélé au monde qu'il les a mariés de son propre chef, sans le consentement des familles. Puis alors, là, le monologue a sa fonction tout à fait classique, qui est la délibération. Alors elle délibère, d'un côté elle pèse le pour et le contre, et si le frère Laurent m'avait véritablement empoisonné, et puis non, finalement, la raison lui rappelle que il lui semble que non, parce que d'après ce qu'elle sait du frère Laurent, ce n'est pas du tout vraisemblable que le frère Laurent ait voulu la tromper. Donc on a une première étape du monologue qui est se rassurer. Et puis après, ça ne marche plus du tout, puisque la folie s'engendre elle-même par sa propre dynamique. Elle a d'abord peur à l'idée de l'air insalubre, à l'idée d'être asphyxiée par l'air insalubre, puis à l'idée d'être rendue folle par la présence des morts. Et finalement, la dernière moitié du monologue que nous a lu Martin n'est qu'une seule phrase, une très très longue phrase qui fait une vingtaine ou 25 vers, dont la construction même imite, par la prolifération des subordonnées circonstancielles, par exemple « si je vis, si je m'éveille » ou des subordonnées relatives « ce caveau où depuis tant de siècles sont entassés les os de tous mes ancêtres » où Tybalt, encore sanglant, se putrifie dans son linceul. s'écrie de Mandragore, qui, dès qu'il les entend, rendent les fous vivants, rendent fous les vivants mortels. Donc on a cette prolifération syntaxique hein, qui mime la croissance de la folie, avec aussi l'anaphore, c'est-à-dire la répétition en début de phrase ou de proposition du « n'est-il pas probable » qu'elle dit plusieurs fois et qui montre bien, qui brode en l'amplifiant la terreur de perdre la raison. Et puis à la fin, son imagination déborde avec encore une autre horreur croissante, celle des gestes fous auxquels elle pourrait se livrer à la vue des os des ancêtres, en présence des esprits des ancêtres. Et là, il y a encore une marche qui est franchie, car c'est vrai que si elle se réveille dans le tombeau, elle va voir les os de ses ancêtres. Enfin, c'est sûr, c'est réaliste en quelque sorte. Mais ensuite, l'idée qu'elle serait en présence des esprits des ancêtres, là, il faut y croire. Et enfin, que la folie lui fera successivement, et vous voyez, à chaque fois, c'est par trois, voir les os, entendre la présence des esprits, et agir elle-même en faisant trois choses tout à fait folles. D'abord, jouer avec les os, ensuite, arracher de son linceul Tybalt mutilé, et enfin, troisièmement, avec un os, se fracasser à elle-même le crâne. Alors, ce qui est aussi très, très beau avec ce monologue, c'est qu'il fait diptyque avec un autre, on ne vous lira pas ce soir, mais que vous pouvez aller relire aussi, et qui est celui de Roméo, quand il va arriver dans le tombeau, puisque nous allons quitter Juliette endormie, hein, au fond, après avoir bu son poison, et puis nous la retrouverons en même temps que Roméo au tombeau, et là, lui-même, dans un monologue qui mène à son suicide, à son empoisonnement, il a aussi un très beau monologue, mais qui est beaucoup, alors pour le coup, qui est tout à fait maîtrisé, qui est serein, celui de rejoindre la lignée des ancêtres de Juliette qui sont mortes dans le tombeau, et de rejoindre bien tous les hommes morts avant lui, comme c'est sa destinée et comme c'est la nôtre.
Il n'y a pas grand chose à ajouter à ce que tu dis, Florence. Simplement, je me demandais en t'écoutant ce qui manquerait à la pièce si ce monologue ne s'y trouvait pas. Après tout, Juliette pourrait boire sa fiole et nous laisser tranquille, hein, et s'endormir tout de suite. Mais poser la question, c'est évidemment y répondre. Juliette est une demoiselle de 13 à 14 ans. Elle a vécu jusqu'ici sous la coupe absolue de ses parents et de la loi du pater familias. Roméo, lui, n'en est pas tout à fait à son premier amour. C'est un homme, il a le droit d'errer par les rues. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le découvre d'abord. Il circule, il a droit, comme tout citoyen mâle, il a droit de libre circulation dans Vérone. Alors que Juliette, elle, en tant que femme, est promise à un autre destin spatial, si je puis dire. Son espace à elle, l'espace féminin, est l'espace de l'intérieur, l'espace du foyer, l'espace familial clos. Or, la pièce, en quelque sorte, va comme accentuer et exagérer leurs deux destins spatiaux. À la suite du meurtre plus ou moins accidentel dont il se rend coupable, Roméo est condamné à être banni, c'est-à-dire qu'il est lancé dans une errance sans limite. Et pour retrouver son époux, Juliette n'a d'autre ressource que d'accentuer encore, en quelque sorte, cet enfermement en essayant de prendre sa famille, sa propre famille, au piège de cet enfermement, le redoublement de cet enfermement suprême qu'elle a mis au tombeau. Cette mise au tombeau, tu en as très très bien décrit la dimension fantastique et fantasmatique, mais ces interrogations de Juliette qui vont croissant, y compris dans l'ampleur syntaxique, et qui deviennent de moins en moins raisonnables, de plus en plus fantastiques, de plus en plus effrayantes, reste quand même l'interrogation d'une toute jeune femme qui pèse les conséquences, qui essaye d'explorer l'avenir, qui essaye d'anticiper tout ce qu'il y a à anticiper. Sa toute première question, c'est « Et si ça ne marche pas ? Si ce poison ne marche pas, quelle est l'alternative ? Être mariée de main de force ? Non. » Alors elle pose une dague. Ça, non, voilà l'alternative, c'est le suicide. Elle commence par une mort choisie, par envisager une mort choisie. Mais au-delà de la mort choisie, il y a d'autres possibilités. Il y a la mort non choisie, l'étouffement, et puis il y a pas la mort du tout, mais une vie dans un lieu terrifiant qui pourrait non pas la priver de la vie, mais de la raison et la pousser au suicide, ce qui est tout autre chose. On revient à une mort, mais à une mort choisie. Enfin non, justement, le suicide dans l'épouvante, le suicide dans la terreur et dans l'aliénation ne serait pas une mort choisie. Donc on semble faire un grand cercle qui va de la mort à la mort. Et dans ce grand cercle, c'est bien la terreur de Juliette qui est dite, mais c'est aussi, je pense, que c'est aussi le souci de cette jeune femme de bien peser ce qu'elle fait, de bien explorer l'avenir, et ça nous permet à nous, spectateurs, de constater le courage qu'il va lui falloir, le courage réel qu'il faut pour accomplir ce geste, qui ne consiste pas simplement à avaler un soporifique et à attendre quelques heures, mais à vraiment à affronter une épreuve qui est plus qu'initiatique. Et on a coupé les trois, quatre derniers vers au cours desquels elle revient au présent, croyant voir le fantôme de son cousin, mais elle conclut sa tirade en disant « Roméo, Roméo, voici ma boisson, je bois à toi. » Je bois à toi et elle boit. Évidemment, ce qui est tout à fait ironique, c'est que dans toutes ces hypothèses qu'elle envisage, elle n'envisage pas évidemment la seule réelle. Elle n'envisage pas, et si à mon réveil je trouve le cadavre de Roméo devant moi, percé de ce poignard que je laisse. Ça, elle ne pouvait pas le prévoir. Personne ne le pouvait, à vrai dire. S'il y a parmi vous des gens qui ne connaissent pas l'histoire, pardon d'avoir spoilé, comme on dit maintenant, d'avoir caché la conclusion. Mais cette fin est absolument géniale, entre parenthèses. Elle a été, comme souvent les fins tragiques de Shakespeare, corrigées au XVIIIe siècle. Cette fin est géniale. Normalement, des amants ne peuvent pas se voir mort l'un l'autre. Normalement, on ne peut se voir mort dans un couple que successivement. Enfin, l'un d'abord et l'autre vers là. Alors que là, chacun des deux amants verra l'autre mort ou croira avoir vu l'autre mort. Et ça, je crois que c'est la première fois dans la littérature que chacun des deux aura contemplé pleinement la mort de l'autre. C'est la toute première fois. Mais bon, cette fin-là a été évidemment corrigée au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Roméo boit du poison et Juliette se réveille. Le passage, hein, les dernières paroles qu'ils échangent doivent être intéressantes. Elles ne figurent pas dans les éditions dont je dispose. Bon, je crois qu'il est temps que nous poursuivions et que nous attaquions dans le vif du sujet, le vif du vif du vif. Nous arrivons en 1601, et nous arrivons juste après Jules César, nous arrivons à cette pièce des pièces qui est Hamlet. Quand nous avons pensé à ce cycle sur les grandes tirades shakespeariennes, on s'est d'abord demandé laquelle des tirades de Hamlet nous devrions sacrifier, parce qu'il y en a 6 ou 7 qui sont absolument extraordinaires, et s'il y a une pièce où Shakespeare déploie vraiment son génie du monologue ou du soliloque dramatique et lui fait gagner encore d'autres dimensions, c'est bien celle-là. Alors, ben, en tout cas, on a choisi l'option toute simple de commencer par le commencement, par le tout premier monologue de Hamlet, qui est moins connu que celui de l'acte 3, scène 1. C'est le monologue que Hamlet prononce après sa première apparition en scène. Au cours de cette première apparition, nous avons vu le roi Claudius intimer à Hamlet l'ordre de ne pas retourner à Wittenberg pour suivre ses études, d'où il est revenu pour les obsèques de son père et le mariage de sa mère. Et donc le roi Claudius intime à Hamlet l'ordre de rester au Danemark pour le moment, parce que ça fait plaisir à sa mère. Voilà. Et donc Hamlet se retrouve par ordre royal cloué sur place à Elsener. La perspective, l'issue que serait la fuite, lui est désormais barrée. Hamlet doit se soumettre, c'est un ordre royal, et une fois que la cour s'est retirée, il reste seul sur le rivage de la Seine, et voici ce qu'il dit.
Oh, si cette trop solide chair pouvait fondre, se liquéfier et se résoudre en rosée, ou si l'Éternel n'avait pas édicté sa loi contre le suicide. Ô Dieu, Dieu, comme me semble fastidieux défraîchis, plats et stériles tous les usages de ce monde. Pouah, oh pouah, c'est un jardin où le chien-dent monte en graines. Une proliférante et grossière nature envahit tout. En être venu là, mort à peine depuis 2 mois, non, pas autant, pas 2, un si excellent roi qui était à celui-ci ce qu'Hyperion est à un satyre, si tendre pour ma mère qu'il ne permettait pas au vent du ciel de toucher trop rudement son visage. Ciel et terre, est-ce à moi de m'en souvenir? Oh, elle se pendait à lui comme si son appétit de lui croissait de s'en repaître. Et pourtant, en 1 mois, n'y pensons plus. Fragilité, ton nom est femme. Un petit mois, les souliers n'étaient même pas usés avec lesquels elle suivait le corps de mon pauvre père, comme niobé, tout en larmes. Elle, oui, elle, oh Dieu, une bête à qui manque la faculté de raison aurait pleuré plus longtemps, se mariait à mon oncle, le frère de mon père, mais qui ne ressemble pas plus à mon père que moi à Hercule. En 1 mois, avant même que le sel de larmes mensongères ait cessé d'irriter ses yeux rougis, elle se mariait. Oh hâte perverse, se ruer si prestement dans des draps incestueux. Ce n'est pas bien, et rien n'en peut venir de bien. Mais brise-toi, mon cœur, car je dois tenir ma langue.
Voilà, c'est un monologue, pour le coup, pur, hein, c'est-à-dire un monologue qui permet au spectateur d'entrer dans la conscience du personnage, qui permet l'explosion du sentiment, du point de, dans l'ordre de la fiction, hein, le personnage explose, hein, il dit ce qu'il a sur le cœur pour lui-même, il s'adresse à lui-même. Et puis, dans l'ordre de l'adresse au spectateur, ce qu'on appelle couramment au théâtre la double énonciation, c'est-à-dire que ce qui se passe a un sens dans le cadre de la fiction elle-même et puis a un autre sens dans le cadre de l'adresse de toute la pièce au spectateur. Et là, pour le spectateur, on a accès à l'âme d'Hamlet sans feinte. Ce qui est un cas particulier, il y a d'autres cas de monologue ou de soliloque d'Hamlet, c'est-à-dire parlant à lui-même, seul, pour lui-même, mais en présence d'un autre personnage, où on peut parfois se demander si Hamlet feint son discours, hein, ou utilise ce discours à des fins pragmatiques, hein, pour agir sur l'autre. Là, il ne s'agit pas d'agir sur un autre puisqu'il est seul avec lui-même. Et donc, ce à quoi on a accès, c'est d'abord un éclaircissement sur ce que pouvait penser Hamlet pendant qu'il entendait l'ordre royal de rester sur place, hein, pendant lequel il n'a rien répondu. Et on a en quelque sorte la réponse, mais in absentia, en l'absence du roi et de la mère, une réponse absolument sincère. Et puis aussi, cette tirade, ce monologue, il permet d'exprimer une chose très belle et un peu ambivalente. Cette chose très belle, c'est l'éloge par l'enfant de l'amour de ses parents, de l'amour défunt, donc, de ses parents. Et alors, pourquoi est-ce que c'est ambivalent? Eh bien, parce que cet amour idéalisé de l'enfant pour l'amour du couple parental, il s'exprime ici par une opposition. D'un côté, on a le père qui n'est que soin pour la mère, hein. Il est caring en quelque sorte, on dirait aujourd'hui, hein. Il s'occupe d'elle, il est so loving to my mother, et il protège sa joue des rigueurs du vent. C'est magnifique cette image du soin que l'on peut prendre de l'autre, hein, de celui qu'on aime, en le protégeant des rigueurs du vent, c'est-à-dire de la nature toute puissante, hein. Mais inversement, si on regarde comment Hamlet décrit l'amour de la mère pour le père, il existe cet amour de la mère pour le père, hein, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas du soin, c'est du désir, et du désir qui croit de s'en repaître, hein. Donc finalement c'est de la luxure, hein, au fond, hein. Et du coup, c'est là que commence, dans cet éloge du couple parental, la faille, puisque quand il décrit la mère, eh bien, c'est une mère qui est luxurieuse, qui est fragile, qui est faillible, comme toutes les femmes. Frailty, thy name is woman. donc fragilité, ton nom est femme. Et finalement, ce qui va se développer ici, c'est toute une rhétorique du scandale qui est entièrement dû à la mère. Car finalement, dans ce deuil trop court, où il a manqué, qui a manqué de décence, hein, qui a cruellement manqué de décence, la responsable, c'est qui? De fait, c'est et l'oncle, Claudius, et la mère. Mais dans le discours d'Hamlet, ce n'est que la mère, ici, avec toute une rhétorique du scandale. Alors, pour être un petit peu pédante, on peut, si je veux être un peu pédante, je peux repérer des figures de style, mais enfin, chez Shakespeare, elles abondent, hein, ces figures de style. Je vais en nommer quelques-unes, qui toutes ici sont utilisées, en contexte, hein, pour dénoncer le scandale de l'attitude de la mère. Alors, cette première figure de style, c'est l'épanadiplose, celle qui consiste à commencer une phrase par une expression « a little month », un petit mois, et à la terminer quelques vers plus loin par la même expression « within a month », en l'espace d'un mois. Et donc, on a ce scandale, hein, ça ne fait qu'un mois, c'est très peu de choses, un mois. Deuxième figure de style pour dire le scandale, c'est la comparaison. La comparaison de la mère avec Niobé, cette grande figure du deuil. Enfin, Niobé pleurait ses enfants. Et donc, la comparaison avec Niobé, elle sert ici à dénoncer l'hypocrisie de la mère, dont les pleurs est soit trop court, soit fin. Peut-être fin à force d'avoir été trop bref. La troisième figure de style qui rentre dans cette rhétorique du scandale, c'est l'hyperbole. L'hyperbole, l'exagération avec laquelle Hamlet accuse sa mère d'être plus bestiale que la bête, quand il dit « a beast that wants discourse of reason », c'est-à-dire une bête à qui il manque le discours de la raison, aurait plus longtemps respecté le deuil. Et là, c'est une hyperbole vraiment extrême, puisque une des définitions même de l'humanité, d'un point de vue anthropologique, ce à quoi on reconnaît l'humain par rapport à la bête, c'est qu'il enterre ses morts, hein, c'est qu'il a le respect de ses morts. Donc là, l'hyperbole est vraiment énorme. Et puis enfin, dernière figure de style qui dénonce le scandale, ici, c'est l'hypallage. L'hypallage, c'est-à-dire cette figure qui consiste à associer à un substantif, à un nom, un adjectif qui, en principe, dans la phrase, renvoie à un autre substantif. Et ici, l'hypallage, c'est celui des draps incestueux, incestuous sheets, hein, avec même difficulté, hein, à la prononcer avec ces S vraiment très, très sifflants, très durs. Et bien sûr, ce ne sont pas les draps eux-mêmes qui sont incestueux, mais la femme qui couche dans ces draps-là. De sorte que, hein, au bout du compte, ben, on a ici, en partant d'une description de l'amour de l'enfant pour l'amour de ses parents, qui évidemment est la cause de sa propre naissance, on aboutit finalement à une déclaration de grande misogynie, c'est-à-dire que la trahison de la mère, elle aboutit à une vision de la femme luxurieuse tout à fait effrayante, dont pâtira Ophélie, du reste, hein, puisque Hamlet s'adressera un peu plus tard à Ophélie en des termes tout à fait misogynes.
Tu parlais de femme luxurieuse. On parle aussi de végétation luxuriante, et le fait est que cette tirade de Hamlet commence par une généralisation massive. Le monde entier n'est qu'un pâle souvenir dégénéré du jardin d'Éden, où la métaphore parcourt toute la pièce d'ailleurs à plusieurs reprises. Le mal est comparé à une végétation, à de la mauvaise herbe montée en graines et qui envahit tout. Et tu as pointé l'image de la mère, de l'amour de la mère pour le père. Elle figure exactement après le milieu de la tirade. La tirade fait 31 vers. Donc, si vous regardez le 15e vers, il commence par une interrogation, la question rhétorique. « Must I remember ?» Dois-je, suis-je contraint de, faut-il absolument que je me souvienne, que je m'en souvienne. L'amour d'autrefois, l'amour des parents est devenu un souvenir insupportable, un souvenir qui est de l'ordre de l'obsession. Mieux vaudrait pour lui qu'il l'oublie, d'une certaine façon, n'est-ce pas, qu'il ne porte plus ce souvenir en lui. Et avant ce souvenir, il y a cette très belle image de l'amour du père pour la mère, effectivement, qui ne supporte pas que les vents du ciel visitent trop rudement sa joue, une douceur absolue, et après, mais qui est effectivement de l'ordre de la protection. Et après ce souvenir pivot, Must I Remember, qui est comme l'axe autour duquel toute la réplique tourne, il y a effectivement l'amour de la mère pour le père qui est de l'ordre du désir. Le terme qu'emploie Hamlet étant appétit, appetite. Et la métaphore implicite est intéressante. As if increase of appetite had grown by what it fed on. Autrement dit, bon, comme si l'augmentation de l'appétit avait grandi par ce dont ça se nourrissait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, si vous pensez au lait du chèvrefeuille de Marie de France, par exemple, tout s'éclaire. La mère pendait au père comme un lierre à un arbre, si vous voulez. C'est-à-dire que le lierre et la plante parasite, le lierre ou le chèvrefeuille, pousse en s'agrippant à un tronc qui lui représente la part solide et nourricière du couple. Et le lierre ou le chèvrefeuille, lui, s'y accroche faute de force propre et s'en nourrit. Et d'une certaine, et la métaphore implicite qui est là, effectivement, montre bien que le rapport que finalement, après coup, Hamlet déchiffre ou interprète cet amour du couple qu'il a engendré comme un rapport de parasite d'organisme à parasite, ce qui est absolument, absolument terrible. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais ce qui est remarquable, ton analyse l'a bien montré, hein, avec cet usage des différentes figures, toutes ces figures reviennent à exprimer un mouvement sur place, un mouvement obsessionnel sur place. On revient au même mot, on revient au même point, et on y revient de façon toujours plus grave, puisqu'aussi bien, il y a une sorte d'accélération, d'accentuation, même pas de mois, en un mois, moins d'un mois, le deuil, qui était d'abord trop court, devient quasiment inexistant à la fin, et ça finit par ce vers incroyable, cette hâte, cette vitesse perverse entre toutes, se hâter, with such dexterity to incestuous sheets, qui est effectivement presque imprononçable quand on n'est pas un professionnel. Et il parle effectivement de se précipiter vers les draps incestueux, et il ne dit pas avec célérité, il dit avec dextérité. C'est incroyable. Ça devient tout d'un coup dextérité. Enfin, ça devient. Plus ça va, et plus on entend l'obscénité qui hante de façon sous-jacente les images de Hamlet. C'est remarquable. Mais il est enfermé là-dedans. Il est enfermé. Le premier monologue de Hamlet est un monologue d'enfermement. Et c'est à ce moment-là qu'entre Horatio. C'est juste à la fin de ça. Hein, je dois tenir ma langue. Donc Hamlet est un personnage qui a parlé pour dire qu'il ne pourra pas parler, qu'il lui est défendu de parler, qu'il faut qu'il contienne sa parole. Et Horatio va venir lui annoncer qu'il a vu le spectre de son père, que le spectre de son père lui a fixé rendez-vous. Et comme vous le savez, le spectre va exiger de Hamlet une certaine conduite et va donc lui dicter des règles qui vont non pas lui interdire de parler, vont le contraindre de parler d'une certaine façon, mais qui vont ajouter une sorte de contrainte supplémentaire à sa parole. Mais on passe peut-être au monologue suivant, parce que quelle pièce.
Tu veux le situer peut-être?
L'acte 2, scène 2. Mm-hmm. Oh, écoute, qu'est-ce qu'on.
Juste après.
Bah, il vient de.
Les comédiens,
oui,
viennent d'arriver.
Les comédiens viennent,
oui,
d'arriver.
Alors, les comédiens sont arrivés et là, Hamlet se heurte à une deuxième difficulté. Bon, donc le spectre est venu. Le spectre de son père est venu. Ce spectre lui a dit: mon fils, il faut que tu saches que j'ai été victime d'un meurtre, et que ton oncle Claudius m'a assassiné, ton oncle qui est sur le trône. Donc il faut que tu me venges. Débrouille-toi, il faut que tu me venges. Ah, j'oubliais, surtout ne fais rien contre ta mère. Voilà. Et donc Hamlet se trouve devant la difficulté suivante, apparemment en surface, première difficulté, il doit venger son père sans faire de mal à sa mère. Et alors qu'on vient de voir qu'ils ne sont qu'une seule chair, même si moitié de cette chair est morte, d'une certaine façon, ils ont été unis par les liens sacrés du mariage, n'est-ce pas? Et le spectre lui dicte de ne rien faire contre sa mère. Mais comment faire pour tranché maintenant dans le vif de cette nouvelle chair monstrueuse que ce second mariage a créé en amalgamant la chair de Claudius à la chair de Gertrude, de la mère. C'est la première difficulté. Deuxième difficulté, est-ce bien le spectre du père, déjà ? Je ne vous parle même pas du contenu de la parole de ce spectre, mais je vous parle de du statut même de ce spectre. Après tout, ce spectre, qu'est-ce qui me garantit, se demande Hamlet, qu'il s'agit bien du spectre de mon père ? Qu'est-ce qui me garantit qu'il ne s'agit pas d'une ruse du diable pour me perdre, pour perdre mon âme en me poussant à commettre un acte irréfléchi ? Donc, il faut enquêter. Hamlet doit enquêter. Mais il doit enquêter en se protégeant. Il doit enquêter en se surveillant, en évitant de donner prise aux soupçons. Ce qui n'est pas simple à Elseneur, qui est une cour très refermée sur elle-même. Et puis, Hamlet doit aussi se méfier de lui-même, de ses propres sentiments qui grondent, de sa propre passion, de sa propre émotion, parce qu'au fond, Hamlet, malgré ses scrupules religieux sur le statut du fantôme, au fond, il est persuadé que le fantôme lui a dit vrai, n'est-ce pas ? Et enquêter, alors qu'on est déjà sûr du résultat de l'enquête, c'est jamais très bon. Donc, Hamlet va prendre le masque, il va prendre le masque de la folie, comme vous savez, entre autres raisons, pour aller très très vite. Et il mène son enquête, mais du coup, il attire l'attention sur lui, puisqu'il fait le fou. Donc, Claudius ouvre une contre-enquête pour savoir exactement ce que son neveu a dans la tête, pour se comporter de façon si bizarre ces temps-ci. Et donc, Claudius et Hamlet se tournent autour en enquêtant et contre-enquêtant, en essayant de savoir exactement ce qu'il en est de l'autre, et ça ne donne pas grand-chose, il faut bien le dire, jusqu'au moment où arrivent les comédiens. Les comédiens. Et les comédiens, pour Hamlet, c'est un énorme soulagement. C'est là que tout son amour du théâtre s'épanche, parce que le théâtre, c'est bien un endroit où on peut s'épancher, où on peut exprimer l'émotionnel, où on peut dire ce qui ne peut pas être dit autrement. Et histoire de se soulager un peu, il demande tout de suite à ses amis comédiens de lui donner un petit aperçu de leur talent, et de bien vouloir jouer quelque chose. Là-dessus, un comédien lui fait une tirade sur un petit épisode de la mort de la guerre de Troie, où il est question d'Hécube voyant tuer Priam, c'est-à-dire d'une reine voyant tuer son vieil époux. Et au cours de la tirade, le comédien est tellement ému qu'il en vient à pleurer, ce qui fait que Hamlet interrompt la scène, le remercie, leur promet un bon pourboire, leur demande de revenir plus tard parce qu'il a peut-être un petit emploi pour eux, comme une idée en tête, et là-dessus on le laisse seul. Et là il éclate.
Maintenant je suis seul. Oh, quel coquin et quel vil esclave je suis! N'est-il pas monstrueux que ce comédien-là, dans une pure fiction, un rêve de passion, ait pu si bien plier son âme à sa pensée que par son travail tout son visage a blêmi, des larmes dans les yeux, un aspect égaré, la voix brisée et tout son être se modelant sur sa pensée, et tout cela pour rien, pour Hécube? Que lui est donc Hécube? Ou qu'est-il pour Hécube? Qu'il puisse pleurer sur elle. Que ferait-il s'il avait le motif et les raisons de souffrir que j'ai, moi? Il inonderait le plateau de larmes, déchirerait l'oreille du public de tirades atroces, rendrait fou le coupable, épouvanterait l'innocent, confondrait l'ignorant et frapperait de stupeur toutes les facultés des yeux et des oreilles. Or moi, canaille engourdie, pétrie de boue, je languis comme un Jean de la Lune, insensible à ma cause et ne dit rien. Non, pas même pour un roi dont un complot damné a détruit la personne et la précieuse vie. Suis-je un couard? Qui me traite de scélérat, me fend le crâne, m'arrache la barbe et me la souffle au visage, me tord le nez et me fourre mes mensonges dans la gorge jusqu'au fond des poumons? Qui m'inflige cela? Ah, sans Dieu, je l'accepte, car il faut bien que j'aie un foie de pigeon et que je manque du fiel qui rend l'injure amère. Sinon, j'aurais déjà gorgé tous les vautours de l'air des tripes de ce cerf. Sanglant, obscène scélérat, scélérat sans pitié, traître, lubrique, monstrueux, ô vengeance! Mais quel âne je suis! Et qu'il est admirable que moi, le fils d'un très cher père assassiné, porté à me venger par le ciel et la terre, tel une putain, je déballe mon cœur avec des mots, et m'abîme à jurer comme une vraie grue, une souillon. Poids, horreur, à l'œuvre mon cerveau. J'ai entendu dire que des créatures coupables assistant à une pièce furent par l'art de la scène si fortement frappées à l'âme que sur le champ elles proclamèrent leur forfait. Car le meurtre, bien qu'il n'ait pas de langue, a pour parler une voix miraculeuse. Je ferai jouer par ces comédiens, devant mon oncle, quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père. J'observerai ses traits, je le scruterai au vif, s'il tressaille, je sais ma route. L'esprit que j'ai vu est peut-être un diable, et le diable a le pouvoir de revêtir une forme séduisante. Oui, et peut-être, profitant de ma faiblesse et de ma mélancolie, car il est très puissant sur ces sortes d'humeurs, il m'abuse pour me damner. Il me faut un sol plus ferme. Le théâtre sera la chose où je prendrai la conscience du roi.
Donc c'est évidemment une réflexion sur le paradoxe du comédien qui réussit à exprimer ce qu'il ne ressent pas, là où l'homme réel qui est Hamlet ne réussit pas à exprimer ce qu'il ressent, d'une part, hein, d'où toutes ces expressions vraiment d'autodénigrement auxquelles il se livre, hein, suis-je un rogue, un rascal, vilain, donc un traître, un méchant homme, un coquin, qui ne sait ni parler ni agir. Et c'est finalement le théâtre qui, comme l'expliquait Daniel, est une sorte de bénédiction qui lui arrive pour, en quelque sorte, parler et agir à sa place, agir par l'action que le théâtre est censé avoir sur le spectateur. Donc là, on a une double réflexion sur, d'une part, le talent du comédien, et d'autre part, les pouvoirs du théâtre sur le spectateur. Et donc, c'est une scène où Shakespeare réfléchit, ou plutôt fait réfléchir son spectateur sur ses pouvoirs du théâtre, mais sans donner véritablement la réponse. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant, c'est qu'on reste, après la lecture ou l'audition de cette grande tirade, tout à fait perplexe sur la réponse que Shakespeare a en tête, à supposer qu'il en ait une. Bon, il y a d'abord cet étonnement devant la capacité du comédien grâce à un travail, hein, par ce travail, tout son visage a blémi, à produire une fiction d'émotion. Mais pour nous qui, entre-temps, avons lu des théoriciens qui ont parlé de la question, eh bien, on voit bien que Shakespeare ne tranche pas sur la question de savoir si le comédien produit cette émotion par un travail qui est un travail en quelque sorte d'auto-analyse, ou d'introspection consistant, comme dans la méthode mise au point par Stanislavski, à se mettre dans, à se replonger dans l'état d'âme dans lequel on est quand on ressent telle émotion, ou bien en adoptant une méthode qui serait plutôt celle dont parle Diderot dans le paradoxe sur le comédien, qui consisterait simplement à imiter à partir de l'observation de l'effet des passions sur les hommes, à imiter donc plutôt le symptôme, c'est-à-dire la manière de parler, la manière de se mouvoir, l'intonation, afin de donner l'illusion du sentiment à rebrousse poil, en quelque sorte, en remontant de la manifestation à sa cause, de la manifestation d'une passion à sa cause. Et finalement, la réponse, Shakespeare ne la donne pas. Simplement, Hamlet s'interroge sur la nature de ce travail. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir que finalement, la manière dont le théâtre agit sur l'homme, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler par ailleurs la catharsis, hein, la capacité du théâtre à purifier l'âme, selon un modèle chimique de la catharsis, il y a deux traductions possibles, hein, pour la catharsis, enfin là je parle sous le contrôle de Daniel, hein, qui sait tout ça bien mieux que moi, qui parle grec autant comme de France, hein, comme on dit les femmes savantes. Mais on peut envisager la catharsis soit comme une purification chimique, hein, des passions de l'âme, ou comme plutôt une purgation, plutôt sur un modèle physique, éliminer le mal. Alors comment ça marche sur l'homme, sur le spectateur, donc, eh bien, on ne sait pas non plus très bien. Ce que suppose Hamlet, c'est que ça va marcher, et que donc ça va avoir une efficacité sur les coupables qui vont assister au spectacle qu'il va leur donner à voir. Et ce qui m'a frappé, me semble-t-il, c'est l'idée que le théâtre est quand même un peu diabolique. Est quand même un petit peu diabolique parce que ce dont il parle, c'est de l'art du théâtre. Alors dans le texte que nous avons entendu, c'est traduit l'art du théâtre, mais en anglais, le mot c'est cunning. Le théâtre a cette capacité d'être cunning, donc d'avoir cette malice au fond, hein, puisque cunning ça veut dire l'art, la capacité,
la ruse
est presque la malice au sens de quelque chose qui serait malin. Il y a un vers de Roméo et Juliette que j'adore vraiment, qui m'a frappée depuis toujours, c'est cette déclaration de Juliette à Roméo qui lui dit que par rapport aux autres femmes qu'il a pu connaître, elle lui dit « I prove more true than those who have more cunning to be strange ». Donc je me révélerai plus fidèle, plus loyale que celles qui ont plus de malice à se rendre étrange, à séduire par l'étrangeté, par la bizarrerie, par la ruse. Et donc là, c'est bien, en quelque sorte, soigner le mal par le mal, soigner la culpabilité du spectateur par une ruse plus grande encore, par un mal plus grand encore, qui est le théâtre avec ses vertus diaboliques. Et puis, puisque au bout du compte, ce qu'il va produire, c'est un piège. Quand il dit « The play is the thing wherein I catch the conscience of the king », le théâtre est « the thing », c'est-à-dire cette chose un peu innommable, dont on ne peut pas trop dire la nature, au fond, qu'est-ce que c'est. Et « wherein I catch », je vais attraper, je vais piéger la conscience du roi. Alors, moi, je suis assez sensible à cette petite note, cette petite interrogation sur le caractère diabolique du théâtre. Et puis, finalement, sur le fait que toute cette tirade métathéâtrale ne nous permet pas de savoir ce qu'on ne saura jamais, à savoir si la catharsis, ça marche vraiment ou pas.
C'est très vrai. C'est très très vrai. Pendant que tu faisais ces remarques, je rejetais un coup d'œil sur le texte anglais et je remarque une chose que je n'avais pas remarquée, comme toujours quand on relit Shakespeare, c'est que justement au début de la tirade, lorsque Hamlet s'interroge sur ce qui se passe chez l'acteur ou admire cet homme et montre une certaine jalousie aussi envers la capacité de l'acteur, il dit, bon, c'est une autre traduction, « N'est-il pas monstrueux que cet acteur-ci, dans une simple fiction, un rêve de passion, puisse si bien forcer son âme à son dessein qu'elle lui compose ce visage, etc. » Mais dans l'anglais, très exactement, « N'est-il pas monstrueux que cet acteur, but in a fiction, rien que dans une fiction, in a dream of passion, dans un rêve de passion, could force his soul, puisse... ait pu forcer son âme, so to his own conceit, à ce point, plier son âme, malgré elle, à se caler sur his own conceit. Conceit, c'est le même mot que concept, hein, concept. Donc le comédien plie l'âme à un certain concept, à quelque chose de concevable, et il plie l'âme à tel point au concept que... From her working, that from her working, all his visage waned. Her working, her, c'est the soul. Hein? Dans l'anglais de Shakespeare, l'âme est au féminin. Donc on plie l'âme à un concept ou à une conception à tel point que, du fait du travail de l'âme, from her working, du fait du travail de l'âme, le visage se transforme, surgissent les larmes, se compose l'aspect, la voix brisée, his whole function suiting with forms to his conceit. Autrement dit, du concept à l'expression, au signe du concept par le corps, entre le concept et le signe de ce concept, ce signe corporel du concept qu'émet l'acteur par tout son corps, se glisse the soul, l'âme. Or, voilà pour l'acteur. Or, à la fin de la tirade, lorsque Hamlet revient à lui, se ressaisit et demande à sa cervelle de se mettre à travailler, « About my brains », dit-il. Et il dit donc, dans cette traduction-ci, « J'ai ouï dire que certains coupables, assistant à une pièce, furent, par le jeu subtil, le cunning, de l'action, frappés si fort au tréfonds de l'âme qu'ils ont aussitôt proclamé leur méfait. Le texte anglais dit « I have heard that guilty creatures, j'ai entendu que des créatures coupables, sitting at a play, assises devant une pièce, have, by the very cunning of the scene, ont, par la, du fait de la ruse extrême, de la malice, de la finesse perverse de la scène, been struck so to the soul, ont été à ce point frappés jusque dans l'âme, that presently, que, à l'instant, they have proclaimed their malefactions. Ils ont avoué, ils ont proclamé à haute voix leurs méfaits. On retrouve l'âme, mais le chemin se fait comme en sens inverse. On part du spectacle, donc d'une perception. La perception remonte jusqu'à l'âme, et l'âme provoque le signe, à savoir l'aveu. Ce mystère, cet indécidable dont tu parlais, du paradoxe du comédien ou du paradoxe du public aussi, cet indécidable, c'est peut-être là qu'il se situe, dans ce point inassignable, mais qui est ici nommé deux fois, entre le corps et le concept. Tu as négligé, je ne sais pas pourquoi, tu as négligé de rappeler que ce piège dont tu parlais, hein, où on va être attrapé la conscience du roi, ce piège, évidemment, plus loin, Hamlet l'appelle la souricière, le mousetrap. Voilà. On pourrait en parler plus longuement de cette tirade incroyable. Je me rappelle que quand Georges Lavaudan l'avait mise en scène à la Comédie française avec Recep Mitrovica en 1994, on avait beaucoup, beaucoup discuté des vers 561 et suivants où Hamlet se demande « Suis-je un couard ? Qui me traite de félon, me fracasse la caboche, m'arrache la barbe et me la souffle au visage ? Qui me tire par le nez, m'accuse de mentir à pleine gorge ? Que dis-je à plein poumon ? Qui ose ? Hein ?» Et attends, corps bleu, je le mérite, plus exactement, je devrais le supporter, car si je n'avais pas un foie de prison. On s'était demandé longuement, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est en train de défier directement le public, de venir lui dire en face à lui, prince du Danemark, qu'il n'est qu'un lâche ? Ou est-ce qu'il est en pleine hallucination ? Oui. Est-ce qu'il est en pleine hallucination d'auto-flagellation ? Est-ce qu'il se voit tout d'un coup environné dans sa passion d'être qu'il accuse et qui lui reproche sa passivité jusqu'à ce point de la pièce ? Là encore, c'est indécidable. Et effectivement, on est plein dans le paradoxe du comédien ou dans le méta-paradoxe du comédien, puisqu'évidemment, Hamlet n'est jamais qu'un comédien en train de jouer le rôle de Hamlet. C'est vertigineux. Voilà. C'est vraiment vertigineux, mais le temps passe et nous avons il faut que nous passions tout droit à Othello maintenant, car vous l'aurez compris, nous ne parlerons pas ici de to be or not to be. Voilà, nous faisons pour aujourd'hui, mais qui sait, nous faisons pour aujourd'hui l'impasse sur ce monologue-là qui pourrait à lui seul occuper largement toute une séance. Et donc nous passons à Othello, que nous aurions dû malheureusement créer cette année à l'Odéon, dans une mise en scène de Luc Bondy. Nous avions commencé à travailler un peu sur l'acte 1 et sur l'acte 3, scène 3. Et le premier passage sur lequel nous allons nous arrêter, dans ce très très court parcours du personnage d'Othello lui-même et de sa langue, c'est sa première grande tirade. À l'acte 1, scène 3, Othello a été convoqué devant le doge parce qu'il y a un terrible péril militaire qui menace la République de Venise. Or, il se trouve que la même nuit, Othello s'est secrètement marié à Desdémone, fille d'un noble vénitien qui n'aurait pas voulu entendre parler d'un tel mariage, puisqu'Othello, comme disait Emmanuel Kant, est noir de la tête aux pieds. Et donc Brabantio ne voulait pas entendre parler de ce mariage. Apprenant que sa fille s'est mariée dans la nuit, il se précipite chez le doge pour faire casser ce mariage, au prétexte qu'une fille de patricien vénitien ne peut avoir épousé un noir, fût-il général, que sous l'effet d'une sorcellerie, d'un philtre, d'une formule magique. Enfin, qu'il y a un coup fourré et que cela donc justifierait que le doge casse le mariage. Pour sa défense, et en attendant qu'on convoque Desdémone, Othello propose d'exposer devant les nobles assemblés, d'exposer à quelle magie et à quelle formule il a recouru pour gagner le cœur de la demoiselle. Le doge l'y invite, et voici ce que dit Othello.
Son père m'aimait, m'invitait souvent, me demandait sans cesse l'histoire de ma vie, année après année, les batailles, les sièges, les diverses fortunes que j'ai traversées. Je les énumérais depuis les jours de mon enfance, jusqu'à l'instant où il voulait que je les dise. Et j'y parlais de hasards désastreux, d'incidents bouleversants sur les flots ou la terre ferme, d'esquives sur le fil au pied de la brèche mortelle, de ma capture par l'insolent ennemi qui me vendit en esclavage, de mon rachat, de ma conduite dans le long cours de mes voyages. Et là, vaste caverne, déserts inhabités, rudes carrières, roches et monts dont les sommets touchent le ciel, s'offraient à mon récit. Telles étaient mes étapes. Et puis les cannibales qui s'entre-dévorent, les anthropophages et les hommes portant leur tête sur la poitrine. Pour m'écouter, Desdémone avait une profonde inclination. Mais les affaires du ménage la réclamaient toujours au loin. Et elle les expédiait aussi vite qu'elle pouvait, puis revenait, et d'une oreille avide, dévorait mes paroles. Or, l'ayant remarqué, je pris un jour une heure favorable, et trouvai le moyen de lui tirer du fond du cœur une prière de détailler tout mon pèlerinage, qu'elle n'avait entendu que par fragments, sans y faire attention. J'y consentis, et plus d'une fois je l'ai séduite et privée de ses larmes, en lui parlant de coups du sort que ma jeunesse avait souffert. Mon histoire finie, elle me paya pour ma peine de tout un monde de soupirs. Elle jurait qu'en vérité, c'était étrange, plus qu'étrange, à faire pitié, merveilleusement pitié. Elle aurait voulu ne pas l'entendre, et cependant aurait voulu que le ciel l'eût fait un tel homme. Elle me remercia et me confia que si j'avais un ami qui l'aimait, je n'avais qu'à lui apprendre comment raconter mon histoire, qu'il gagnerait ainsi son cœur. Sur cette invite, j'ai parlé. Elle m'a aimé pour les dangers que j'ai courus, et moi je l'ai aimé parce qu'elle en eut pitié. Voilà toute la sorcellerie dont j'ai usé. Voici la dame, qu'elle m'en soit témoin.
Là, on a une tirade, donc, et non plus un monologue. Et là, on voit bien que ça fonctionne de manière tout à fait différente, hein, puisqu'il s'agit ici, pour Othello, de répondre à une accusation et de se défendre. Donc, il y a deux efficacités de cette tirade à l'intérieur de la fiction. Il s'agit de se défendre, on est dans une scène judiciaire, comme on en trouve beaucoup au théâtre, par exemple, quand Don Diego et Chimène viennent accuser, pour Chimène, défendre pour Don Diego Rodrigue devant le roi Don Fernand, et que le roi Don Fernand doit juger. Ben là, le doge, il est dans cette position, qui est une position très courante au théâtre. Et le spectateur lui-même, d'une certaine manière, est pris à partie aussi pour juger ce cas. C'est un des nombreux rapports entre le théâtre et le droit. Ça, c'est dans le cadre de la fiction. Et puis, dans le cadre de la pièce, vous voyez, on est au tout début encore, on est à l'acte 1, scène 3, la tirade, elle a une fonction qui consiste à compléter l'exposition. On sait déjà un peu les rapports entre les différents personnages. Daniel les a rappelés tout à l'heure quand il a situé la scène. Mais ce qu'on ne sait pas encore, nous spectateurs, c'est comment Othello et Desdémone se sont rencontrés. Or, Othello et Desdémone sont un couple d'amants mariés. Et on a besoin, toujours dans une pièce de théâtre, quand il y a un couple, de savoir comment ils se sont rencontrés. Mais ce récit de la rencontre, il est parfois fait de manière assez peu motivée théâtralement, qui est sur le mode de la confidence. Alors le jeune premier va confier à son valet, va raconter à son valet comment il a rencontré la jeune fille. On trouve ça dans les Favorites Scapin. Où la jeune fille va raconter à sa suivante ou à sa confidente comment elle a rencontré le jeune homme. La confidence, c'est courant au théâtre, mais c'est pas une motivation très, très, très forte. Tandis que là, on a une motivation très forte qui consiste à se défendre, à faire une sorte de plaidoirie pour soi-même, pour se défendre d'une accusation. Et donc, du coup, le spectateur va entendre tout ce récit de la rencontre sans s'en rendre compte, en quelque sorte, à l'intérieur d'une autre pragmatique, qui est celle de la défense. Et ça va permettre à Othello de livrer, finalement, deux récits, dont l'un est enchâssé dans l'autre. Le premier récit cadre, c'est celui de la rencontre avec Desdémone. Il explique qu'il l'a séduite en lui racontant ses exploits, et qu'elle en a eu pitié. Donc, finalement, le motif de l'amour de Desdémone pour Othello, c'est l'admiration pour les exploits guerriers, mais aussi et surtout la pitié pour tout ce qu'il a encouru, non seulement dans ses batailles, mais aussi dans son enfance. Et c'est finalement une assez belle raison d'aimer. Hein. La carte du tendre parle de l'inclination, du mérite, de la reconnaissance. Ici, on a un autre motif qui est celui de la pitié. J'ai dit le mérite, je voulais dire l'estime. Il y a un peu d'estime aussi, hein. C'est un des ingrédients ici de l'amour de Desdémone pour Othello. Et puis ce récit de la manière dont il a séduit Desdémone, il inclut un autre récit qui est le récit de ses exploits, le récit de ses batailles. Mais c'est un récit que du coup Othello ne va pas faire directement, c'est-à-dire que son but n'est pas de se vanter de ses exploits. Le récit des batailles, il est narrativisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas au discours direct, il n'est pas au discours indirect, il n'est pas au discours indirect libre, il est narrativisé, c'est-à-dire qu'il dit « je lui ai raconté mes exploits ». Et donc ça suppose qu'il a commis des exploits sans qu'il ait besoin de les raconter par le menu dans le détail. Donc c'est une très belle construction dramatique via le récit. Et puis enfin, ce qui m'a frappée dans ce texte, c'est à la toute fin, l'appel final au témoignage. Othello attend que Desdémone arrive pour confirmer ses dires, et ce qui va être décisif, c'est la réponse de Desdémone à la question qui va lui être posée ensuite, à savoir, est-ce que Othello dit vrai? Est-ce que vraiment tu as été séduite par le récit de ses actions et la pitié que le récit de sa vie t'a inspiré? Et si on regarde bien, le texte est entouré par deux enjeux majeurs qui sont l'appel au témoignage. Parce que avant le texte, Othello a dit « allez la chercher », et c'est, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Daniel, en attendant qu'elle revienne pour confirmer ses dires, qu'il fait cette tirade. Et on peut dire qu'au fond, dès maintenant, le thème du témoignage est lancé, qui est le thème dramatique majeur, finalement, de la pièce, hein, qui est l'enjeu dramatique majeur de la pièce, puisque c'est ensuite, après ce témoignage véridique de Desdémone qui va sauver Othello, que vont intervenir des témoignages, cette fois-ci fallacieux, qui perdront Desdémone. D'abord, Othello croira au témoignage fabriqué de Iago, à une fausse preuve, un faux indice, le mouchoir dont on parlera tout à l'heure. Et puis, enfin, il y aura un témoignage de Desdémone en faveur de Cassio, donc l'homme avec qui, prétendument, selon Iago, Desdémone trompe Othello. Et ce témoignage de Desdémone authentique, véridique, en faveur de Cassio, va se retourner contre elle et être pris, être mal interprété par Othello. Et puis enfin, à la toute fin de la pièce, vont être trouvées des lettres, vraies preuves à décharge de l'innocence de ceux qui ont été, de ceux qui ont été accusés. Alors c'est ce qui m'a touché aussi, ce motif du témoignage dont dépend Othello. Et peut-être que s'il s'était souvenu qu'il avait lui-même dépendu d'un témoignage, il aurait été plus circonspect avec ceux qu'il croira trop vite.
Tu as eu raison de rappeler que ça fonctionne de façon très très différente et que le contraste avec le monologue de Hamlet, par exemple, est extrême, d'abord par la situation dans laquelle effectivement le monologue est prononcé. Pour nous, spectateurs, c'est le premier aperçu de première main que nous ayons sur Othello. Au début de l'acte, Iago a parlé d'Othello à Rodrigo, il en a parlé en termes dépréciatif, voire insultant, et en ne prenant même pas la peine de le nommer. Ici, nous avons pour la première fois l'esquisse d'un autoportrait. Et d'un autoportrait donc qui témoigne d'une volonté de se faire connaître, et non pas simplement, comme chez Hamlet, de l'effet du discours. Hamlet ne veut pas se faire connaître de spectateur lorsqu'il prononce son premier monologue, puisqu'aussi bien, il ne sait pas qu'il y en a. Ici, Othello en a. Et il compose effectivement un portrait. C'est un portrait très composé, très travaillé. C'est d'autant plus frappant que Othello, quelques tirades plus haut, a rappelé que son verbe était celui d'un soldat et qu'il n'était pas très, très bon orateur, qu'il n'était pas versé dans les artifices de la rhétorique. Autrement dit, ce que nous aurions là, c'est un discours, un portrait très pédestre, très simple, très direct d'un homme dont le langage n'est pas le premier moyen d'expression, mais plutôt les actes. Or, ce portrait, que nous révèle-t-il ? C'est un portrait et une biographie, pour aller vite, romanesque et épique. Hein, la vie d'Othello est passée par des hauts, des bas, des aventures. Il a été capturé, il a été vendu en esclavage, il a traversé des paysages incroyables, il a vu des êtres incroyables, des anthropophages, des êtres, des blémis qui ont leur tête et leurs yeux qui s'ouvrent sur la poitrine. Il a traversé des mondes fantastiques. Et ces mondes fantastiques, cette existence fantastique d'aventurier, ce film, n'est-ce pas, il le déploie alors qu'une demoiselle, enfermée dans sa maison, dans son palais vénitien, est là, avide de l'écouter. Tellement avide. Et que désire Desdémone ? C'est curieux, elle le déclare à la fin. Elle aurait voulu ne pas l'entendre et cependant aurait voulu que le ciel l'eût fait un tel homme. That heaven had made her such a man. Autrement dit, il y avait aussi chez Desdémone une envie informulée, un désir informulé de vivre d'une telle vie, qui aurait cette plénitude-là, qui serait passée par ces points si contrastés, qui lui aurait permis de traverser toutes ces aventures. Faire couple avec Othello, c'est faire couple aussi avec une vie à la Othello, c'est pouvoir accompagner Othello à la guerre, c'est la première chose qu'elle demandera lorsque le mariage aura été sanctionné, c'est de pouvoir partir avec lui en campagne, à Chypre, au lieu de rester à attendre dans un foyer, le sien ou celui de son père, peu importe. Elle n'est pas faite pour le foyer, elle veut partir avec lui. Et les premiers mots par lesquels Othello la saluera lorsqu'ils se retrouveront à Chypre, où ils iront, qu'ils rejoindront par des vaisseaux séparés, et après avoir été séparés par une tempête, les premiers mots qu'Othello lui dira seront « Oh, my fair warrior !»« Oh, mon beau guerrier !» Mais ce qui est évidemment terrible, n'est-ce pas, c'est que cette part-là du désir de Desdémone, Othello ne l'a jamais entendu, ne l'entendra absolument jamais. Et par ailleurs, la menace qu'il y a l'insuffisance ou la faille, les failles qui se dessinent dans cet autoportrait, Othello ne les entend pas non plus. Quand il dit « She loved me for the dangers I had passed »,« Elle m'a aimé pour les dangers que j'ai traversés »,« And I loved her that she did pity them »,« Et moi je l'ai aimé parce qu'elle en a eu pitié », cela revient à dire finalement que, et ce que dit Othello au fond, c'est que Desdémone est tombée amoureuse d'une certaine image qu'il projetait lui, n'est-ce pas ? Elle est tombée non pas de l'Othello réel, mais du personnage de cette fiction, de ce récit qu'il vient de narrativiser. Elle est tombée amoureuse du héros d'un roman d'aventure qui s'appelle Othello. Voilà. Et Othello, auteur et protagoniste de ce roman d'aventure, mais qui ne fait pas la distinction entre l'auteur, le narrateur et le personnage, qui s'appelle Othello, Othello lui-même est tombé amoureux de sa lectrice, parce que sa lectrice a été émue par ce récit qu'il lui a proposé. Mais donc, elle n'a pas, ça veut dire qu'elle n'est pas tombée amoureuse de l'Othello réel, et que lui est tombé amoureux de la Desdémone réelle, mais uniquement à cause du reflet, de l'effet et du reflet que son récit a eu sur elle. C'est terrible. Dès le moment où on amènera Othello à soupçonner qu'elle n'est tombée amoureuse que d'une fiction, mais que l'Othello réel, au fond, elle ne l'a jamais reconnu et réellement aimé, dès le moment que ce doute-là se sera insinué, ça deviendra catastrophique. Et d'autant plus catastrophique que lui-même n'a peut-être jamais aimé la Thèse-démone réelle non plus. Voilà. Bon, vous savez comment ça se termine, cette triste histoire. Mais ce qui est remarquable, c'est l'extrême maîtrise narrative rhétorique de cette langue d'Othello. Et il est déjà 7h30, donc il est très tard, il va falloir qu'on s'interrompe quasiment au milieu. Mais peut-être qu'on peut quand même lire encore un extrait, peut-être, pour montrer comment cette langue d'Othello commence à être détruite par Iago. Et comment Shakespeare, avec un art extraordinaire, fait de la destruction d'Othello la destruction d'une langue, la destruction d'un langage.
Je prends le texte de Iago.
Ah, ouais, très volontiers.
Après avoir joué Roméo.
C'est le... Oui, non, quelle soirée pour moi. Quel début. C'est l'acte 4, scène 1, c'est ça?
Acte 3, scène 3.
Ah, l'acte 3, scène 3, il faut que vous sachiez pour l'acte 3, scène 3, que c'est la grande scène centrale d'Othello. C'est une scène synthétique extraordinaire. On en a beaucoup parlé avec Luc, mais on ne la verra pas, parce que c'est une scène où l'art de la temporalité dramatique de Shakespeare se déploie de façon absolument somptueuse. Pour le dire très très vite, au début de la scène, Othello est amoureux de Desdemone, il n'y a pas de problème, et il prend congé d'elle alors qu'elle repart en disant « Je t'aime, et quand je ne t'aimerai plus, ce sera le retour du chaos. » Voilà. Et là-dessus, Iago se penche vers Othello et dit « Excusez-moi, mon général, c'est Cassio qui était avec elle là tout à l'heure avant qu'on arrive. » Et c'est parti. Et à partir de là, la scène se déploie avec des interruptions, des ruptures, mais en temps continu, elle se déploie sur des dizaines de pages, et à l'issue de la scène, Othello jure qu'il va tuer Desdemone au plus vite. Il a été complètement retourné. Et nous avons assisté à ce retournement étape par étape en direct. Nous avons vu le travail de Iago, nous avons vu les ralentissements, les accélérations, les ruses, les dévoiements. Et l'extrait choisi se situe vers la fin de cette grande scène. Donc, si je comprends bien, c'est à moi de commencer. C'est ça?
Non.
Non, c'est à Othello de commencer.
C'est à Othello. Ah, me tromper, moi?
Eh bien, enfin, mon général, n'y pensez plus.
Va-t'en, laisse-moi. Tu m'as lié sur le chevalet. Je le jure, mieux vaut mille fois être abusé que d'en savoir à peine un peu.
Voyons, Seigneur.
Quel sentiment avais-je de ces heures de plaisir volées? Je ne les voyais pas, n'y pensais pas, n'en souffrais pas. Je dormais bien la nuit suivante. J'étais insouciant et joyeux. Je ne trouvais pas les baisers de Cassio sur ses lèvres. Quand on vous vole, sans que l'objet du vol vous manque, pourvu que vous n'en sachiez rien, vous n'êtes pas volé du tout.
Quelle tristesse d'entendre cela.
J'aurais été heureux si la garnison tout entière, les sapeurs et le reste, avaient goûté à son doux corps, pourvu que je n'en sache rien. Oh, maintenant, à tout jamais, adieu, esprit serein et vie comblée. Adieu, troupes empanachées, vastes batailles qui font de l'ambition vertu. Oh, adieu, adieu, étalon hennissant, trompette aiguë, tambour qui excite les cœurs et fifre perce-oreille, bannière royale et toutes les qualités, orgueil, pompe et cérémonie de la gloire guerrière. Et vous, ô instrument de mort, vous dont les gorges rauques imitent les clameurs terribles de l'immortel Jupiter, adieu. Ce qui occupait Othello n'est plus.
Est-il possible, Seigneur?
Canaille, sois sûr de prouver que mon amour est une putain. Sois-en bien sûr, donne-moi la preuve oculaire, où, par l'éternité précieuse de l'âme humaine, il aurait mieux valu pour toi être né chien que de répondre à ma colère une fois réveillé.
En sommes-nous là?
Fais-le-moi voir, ou au moins prouve-le si bien que ta preuve n'est ni boucle, ni charnière, ou accrocher un doute, sinon malheur à ta vie.
Bon, souvent, on présente Othello comme le drame de la jalousie, comme si Othello était l'archétype du jaloux, comme s'il se caractérisait par un caractère, par une nature jalouse. Mais en fait, il me semble que ce que montre Shakespeare dans ce texte, c'est pas tellement Othello en jaloux, c'est comment fonctionne la jalousie chez tout un chacun. Les mécanismes de la jalousie. Que René Girard a appelé les feux de l'envie dans son livre sur Shakespeare. Bon, il y a peut-être parmi vous des professeurs comme moi qui ont appris à leurs élèves, ils ont appris pour eux-mêmes l'horreur de l'interprétation psychologique des textes de théâtre ou des personnages de théâtre. Oui, s'il s'agit de chercher quelle est la psychologie du personnage, qui au fond n'est pas bien profonde, ne va pas bien loin. Mais en revanche, ici, ce que Othello nous dit par son témoignage, c'est comment fonctionne la jalousie. C'est-à-dire, c'est magnifique, hein, comment fonctionne cet engrenage de la jalousie qui commence à partir du moment où on a un soupçon. Et avec cette idée que, pourvu que je n'en sache rien, ce qui est répété, hein, pourvu que vous n'en sachiez rien, vous n'êtes pas volé du tout d'abord, et ensuite, cette loi générale, pourvu que vous n'en sachiez rien, que vous êtes trompé, vous n'êtes pas volé du tout, il l'applique à lui-même, mais c'est au départ bien une loi générale. Pourvu que je n'en sache rien, alors je n'ai pas à être jaloux. Avec cette idée intéressante, hein, du point de vue de la philosophie morale, que la gravité du geste a supposé qu'il y ait eu adultère, et moins dans l'ampleur de la faute elle-même, d'où cette hyperbole tout à fait comique. J'aurais été heureux si la garnison tout entière, les sapeurs et le reste, avaient goûté à son doux corps. Je salue la beauté de la traduction ici. De la gravité est moins donc dans l'ampleur de cette faute que dans la connaissance de son infortune. Avec l'idée qui est corrélée, évidemment, hein, que eh bien, la faute, elle est aussi dans le messager de l'infortune. C'est aussi malheur à qui porte la mauvaise nouvelle, malheur à l'oiseau de mauvais augure, à Cassandre ou à, ici, Iago. Avec retournement, et ça c'est très humain aussi, c'est la connaissance non pas de l'âme d'un jaloux, mais de l'âme humaine, tout simplement, un retournement de la rage de celui qui apprend une mauvaise nouvelle sur le messager qui lui apprend la mauvaise nouvelle. Sentiment que nous connaissons tous quand nous apprenons une mauvaise nouvelle. Et du coup, ce fonctionnement-là de la psyché, il engendre quelque chose d'absolument décisif dans l'engrenage tragique de la pièce, qui est que Othello exige une preuve maintenant à Iago. Et puisque la nouvelle est fausse, Iago va être contraint de forger une fausse preuve. Qui sera tragique, décisive et tragique.
Tu l'as parfaitement dit, la fausse preuve, en fait, il la détient déjà. Cette explosion de rage se situe immédiatement après le moment où Iago a enfin pu empocher un mouchoir, le mouchoir de Desdémone, le mouchoir qui lui avait fait jurer de ne jamais lâcher, de toujours conserver précieusement, un mouchoir que sa mère tenait de son père, un mouchoir chargé de propriétés magiques. Ce mouchoir, Iago a réussi à le subtiliser et va faire croire évidemment à Othello que Desdémone l'a offert à son amant. Donc la preuve va arriver très très vite. La preuve, cette preuve oculaire, l'importance du thème du regard, effectivement, du regard, comme si le vu était l'objectif, n'est-ce pas, qui est désormais exigé d'Othello. Mais je vous ai dit que l'acte 3, scène 3, était tout un parcours. On arrive ici, effectivement, à la fin du parcours où la victime demande au bourreau, exige au bourreau de poursuivre exige du bourreau qu'il poursuive la torture jusqu'au bout. Cette torture, tu l'as dit aussi, c'est la torture de la pensée. De la pensée, du savoir comme irrémédiable. Tout le début de l'acte 3, scène 3 est sous le signe d'un usage très pervers et très calculé de la part de Iago, du verbe to think, penser. Vous pensez, on peut aussi traduire par vous croyez, c'est ce que je pense, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Et toute l'amorce de la scène consiste pour Iago à ne pas dire ce qu'il pense, mais à faire désirer par Othello qui lui révèle ce qu'il pense, ce qu'il a dans la tête, ce que l'autre a dans la tête. Et là, vous voyez, tout s'est renversé parce que ça a bien marché. Me tromper, moi, Iago dit, n'y pensez plus, mais quand quelqu'un est obsessionnel, quand quelqu'un est sous le coup d'une obsession, plus vous lui demandez à quelqu'un de ne pas y penser, est encore une façon de lui rappeler de le faire. Hein, comme chacun sait, dans l'inconscient, il n'y a pas de négation. Et Iago sait très bien ce qu'il fait. Iago aussi a ses monologues dans Othello. Et dans son petit monologue précédent, qui est quasiment directement adressé au public, voici ce qu'il dit. Le mort change déjà sous l'effet de mon poison. Par nature, les idées dangereuses sont des poisons. D'abord, on leur trouve à peine un drôle de goût, mais en peu de temps, elles attaquent le sang et brûlent comme les mines de soufre. Qu'est-ce que je disais ? Regardez, le voilà qui vient. Ni le pavot, ni la mandragore, ni tous les somnolents sirops du monde ne pourront jamais te guérir et te rendre le doux sommeil dont hier encore tu jouissais. Il sait très bien que c'est irrémédiable, et remarquez cette comparaison de la parole perfide à un poison qui irrésistiblement fait penser au poison dans l'oreille qui tue le père de Hamlet, mais aussi aux paroles que le spectre du père va verser dans l'oreille de son fils et qui vont faire le destin de son fils. Vous avez exactement le même mécanisme ici. Alors, je vous parlais de la destruction d'Othello. Cette destruction, cet empoisonnement d'Othello, il se marque ici avant tout d'abord par l'explosion de la passion douloureuse, de la jalousie, mais qui est elle-même marquée par un changement de lexique, tout simplement. Hein. Tout d'un coup, dans la langue d'Othello, et sous l'effet de la passion, on entend des mots comme « putain ». On a l'évocation terrible, pornographique, de Desdémone en train de se faire sauter par toute l'armée. Vous voyez, il le dit juste avant sa tirade sublime, là, il le dit. Oui, c'est à ces détails qu'on voit que Othello n'a plus prise sur son propre langage, que son langage a été empoisonné par une autre langue qui défait sa langue première. Et c'est aussi ça que dit cette tirade où il dit adieu, adieu, adieu. C'est cette série d'adieux, hein, ces anaphores de l'adieu, c'est Othello, c'est littéralement Othello qui se vide de son être, comme s'il avait été troué et que par ce trou s'échappait tout ce qui se décousait, tout ce qui avait constitué son être jusque-là. Et ce qui constitue son être jusque-là, vous l'avez constaté, c'est purement la dimension militaire. C'est comme si vous le vidiez de l'héroïsme militaire, il ne reste au fond plus rien. Et cette tirade-là se termine, c'était difficile à traduire, hein, se termine d'ailleurs, après, il finit par dire « Farewell, Othello's occupation's gone ». L'occupation d'Othello n'est plus. Occupation. Occupation. Shakespeare a une façon d'utiliser le vocabulaire parfois qui est vraiment vertigineuse. L'occupation, c'est ce qui nous occupe, c'est le savoir-faire, c'est le métier. Mais l'occupation, c'est aussi le terme militaire, l'occupation d'une ville, n'est-ce pas ? Et c'est donc comme si ce qu'Othello savait faire, c'était ce qui l'occupait, qui l'occupait comme on occupe une ville assiégée, n'est-ce pas ? Et l'occupation d'Othello, militaire, son savoir-faire militaire, le quitte comme une armée quitte une ville, et lui reste désormais vide. Il n'est plus rien. C'est comme s'il n'était défini que par ce qu'il savait faire. Et maintenant qu'il est vidé, Iago va pouvoir continuer à le remplir d'autres choses. Vous voyez ? Une fois la destruction tout à fait achevée. Là, pour l'instant, c'est le lexique qui a été détruit. Dans l'extrait suivant, que nous ne lirons pas ce soir, malheureusement, c'était la syntaxe même d'Othello qui était détruite. Les phrases devenaient incohérentes. Et Othello allait jusqu'à perdre connaissance, frappé par une sorte de crise épileptique. Mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps ce soir d'aller au bout du programme dont nous avions prévu une seule chose, c'est qu'il serait bien trop long. Merci. Merci, Florence.